VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Nigeria, l'armée nigériane reconnaît que 112 personnes ont été tuées et 97 blessées dans le bombardement accidentel censé viser des combattants de Boko Haram qui a affecté des civils et des travailleurs humanitaires à la mi-janvier dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a déclaré le général Lucky Irabor qui commande les opérations anti-Boko Haram lors d'une conférence de presse ce jeudi à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno. L'organisation Médecins Sans Frontières, MSF, avait précédemment avancé un bilan d'au moins 90 morts dans les frappes aériennes sur la localité de Ran le 17 janvier, précisant que certains témoignages faisaient état de 170 morts. D'après le général Irabor, le fait que Boko Haram ait attaqué Ran au lendemain des frappes aériennes accidentelles montre que les islamistes nigérians se trouvaient effectivement dans les environs. Seulement, les coordonnées données à l'aviation nigériane étaient fausses. D'où ce triste incident que nous regrettons sincèrement, a souligné le général Lucky Irabor. Le premier ministre de la RDC, Sami Badibanga, est à Washington pour un déjeuner de prière ce jeudi à laquelle ont participé des leaders venus du monde entier. Le président américain Donald Trump y a pris la parole aujourd'hui pour promouvoir la coexistence entre les religions et la lutte contre les groupes extrémistes comme l'État islamique qui veulent imposer par la force leurs convictions religieuses. Sami Badibanga est à Washington alors que la RDC est encore sous le choc de la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mercredi à Bruxelles, à l'âge de 84 ans. Le disparu a marqué de son empreinte la vie politique de la République démocratique du Congo, d'abord comme pilier du régime du dictateur Mobutu, avant de se muer en éternel opposant des leaders au pouvoir à Kinshasa. Au moment du décès, le parti d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, négocie avec les alliés du président congolais Joseph Kabila un partage du pouvoir jusqu'à la prochaine élection présidentielle congolaise censée avoir lieu fin 2017 en vertu d'un accord politique signé le 31 décembre. Pour un coup de projecteur sur l'avenir de l'UDPS et la suite du processus politique en RDC, Eric Maniakiza a joint à Bruxelles le consultant diplomatique Henri Désiré Nzouzi.
L'avenir se décidera à l'aune de la capacité des uns et des autres de faire le deuil de la disparition d'Étienne Tshisekedi, mais surtout de pouvoir se dépasser dans l'intérêt bien compris d'un parti qui a vocation, bien évidemment, à survivre à son fondateur.
Il n'avait pas encore pris sa retraite, il allait même jouer un rôle majeur dans la transition politique. Quel est l'avenir de la démocratie en RDC sans Tshisekedi?
Je pense que ayant été d'une certaine manière à la manœuvre, mais aussi à l'origine, en tout cas, de l'éveil de conscience des Congolais pour justement l'apport démocratique dans ce pays, son héritage devrait être sans trop de difficultés perpétué. Je pense que les Congolais sont aujourd'hui suffisamment mûrs que pour pouvoir créer les conditions d'une consolidation de ce processus démocratique qui est encore jeune, qui vit parfois, je dirais, des moments difficiles, compte tenu du comportement de certains acteurs politiques, mais c'est inscrit aujourd'hui dans les mentalités, dans les consciences. Et donc, à ce niveau-là, je ne me fais pas beaucoup de soucis. Il faudra simplement veiller que ces héritiers politiques puissent perpétuer sa pensée, sa vision, afin précisément qu'elle puisse s'installer durablement. Mais aujourd'hui, les Congolais ont atteint cette maturité qui font qu'ils peuvent aujourd'hui se réapproprier un processus qui, d'une certaine manière, leur permettrait d'envisager des lendemains meilleurs.
Le vieux Tshisekedi n'est plus, mais quelle est la suite maintenant du processus politique?
Il va falloir quand même respecter la période de deuil, donc je pense que des funérailles nationales lui seront consacrées. Une fois ce moment de recueillement passé, il faudra effectivement revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la suite du processus. On sait qu'un accord a été signé, mais que malheureusement, il ne peut être exécuté ou mis en œuvre faute de signature de l'arrangement particulier. Et donc, il va falloir s'assurer que la disparition d'Étienne Tshisekedi ne remet pas en cause le respect des engagements qui ont été pris. Je pense néanmoins que au niveau de la présidence du comité de suivi, certaines ambitions vont s'exprimer et je pense que c'est tout à fait légitime. S'agissant de la primature, là, je pense que là aussi le jeu restera davantage ouvert, mais on peut considérer aussi d'une certaine manière que compte tenu de la personnalité forte qu'incarnait Étienne Tshisekedi, certains pourraient être pensés, ou en tout cas pourraient être tentés de croire que les choses seront, disons, beaucoup moins compliquées. Et je pense que c'est un pari que je ne prendrai pas le risque de prendre, si je puis m'exprimer ainsi, car la politique congolaise est suffisamment aléatoire et pleine de surprises que pour ne pas tomber dans le piège de prédictions.
Henri-Désiré Nzouzi, consultant diplomatique à Bruxelles. Charlie Kassereka, notre correspondant à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, a recueilli des réactions de citoyens congolais, notamment un responsable du PPRD, le parti du président Joseph Kabila, suite à la mort d'Étienne Tshisekedi.
Christian Badossé, secrétaire national à l'implantation de l'ECID. C'est une grande perte. Nous avons perdu un modèle dans toute la République. Un homme qui a montré qu'on peut faire la politique avec la conviction, non avec son ventre, tel que la classe politique congolaise s'est réputée. Et nous, aujourd'hui, si nous acceptons d'être arrêtés à tout moment, emprisonnés, c'est à cause du modèle que nous a légué Tshisekedi. Et nous sommes sûrs, nous, les disciples de Tshisekedi, qui avons reconnu ses valeurs, nous allons nous retrouver et faire un front commun pour qu'un jour nous puissions diriger différemment des autres. C'est ça, ça sera appelé le système Tshisekedi. Et c'est le système qui s'opposera au système Mobutu qui est aujourd'hui en continuité au nom du système Kabila.
Ezekiel Semouhaya, cadre du PPRD Nord Kivu. D'abord, politiquement, il faut dire que nous sommes un parti, non pas un parti État. Dans ces conditions-là, nous avons besoin d'un opposant. Et puis d'un opposant de taille comme M. Étienne Tshisekedi, qui vient de nous quitter. D'abord, paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille biologique, particulièrement aussi à sa famille politique. L'histoire retiendra que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il a joué le rôle qu'il fallait jouer parce que chaque fois qu'il rappelait qu'il faisait trop de bruit, ça nous rappelait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait aussi ajouter à réaliser. Mais aussi, l'histoire retiendra que Tshisekedi, c'est un homme politique qui était de la situation changeante. Avec lui, il pouvait accepter ceci, refuser le soir. Demain, il acceptait ceci, refuser le soir. Nous retiendrons ça.
Par rapport à la mort de Tshisekedi, moi, en tant que femme, pour moi, c'est un regret parce que c'est un leader que nous venons de perdre. Parce que dans une famille, vous ne pouvez pas avoir des enfants des mêmes idées, des mêmes impressions. Mais il faudra des gens parer pour le développement de notre pays.
Des réactions en Goma suite au décès d'Étienne Tshisekedi.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon au programme ce jeudi à la CAN, Ghana-Cameroun, la deuxième demi-finale de la compétition. Lors de la première demi-finale hier, l'Égypte, déjà sept fois champion d'Afrique, s'est qualifiée pour la finale de l'édition 2017 devant le Burkina Faso, un partout à la fin des 90 minutes réglementaires et 4-3 au tir au but. Le compte-rendu de Timothée Delormaille, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les pharaons ont misé sur l'expérience de leur gardien de but et capitaine Essam Kamal El Hadary, qui a repoussé les pénalties de Kwaku Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le coach Hector Cooper se dit satisfait de la qualification des siens, même si les Burkinabés ont mieux joué.
Burkina Faso était meilleur que nous.
Elle était même d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer. Bueno,
le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a félicité les Égyptiens, mais estime que ces poulains auraient pu gagner la partie.
Mon attaquant va pour la surface, le défenseur coupe la balle avec la main. Monsieur l'arbitre, c'est un grand arbitre, souffle la faute après 30 secondes, après l'insistance de l'auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal qu'il y ait une passe, la loi dit, un passe entre un adversaire et autre. La balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton.
Le match pour la troisième place sera le plus difficile pour les étalons, a prévenu Paulo Duarte. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Les pharaons égyptiens retrouveront dimanche à Libreville en finale le vainqueur du match Ghana-Cameroun ce jeudi à Franceville. Et pour terminer l'actualité aux États-Unis, le président américain Donald Trump a menacé ce jeudi de couper les financements fédéraux de l'université de Berkeley en Californie où des manifestants ont violemment protesté la veille contre la venue d'un éditorialiste du site d'extrême droite Breitbart. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.